L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous et bon week-end. Merci d'être avec nous. Comme chaque samedi sur BFM Business, c'est l'atelier numérique. Votre rendez-vous dédié à la high-tech et à l'économie numérique. Je suis ravi de vous retrouver. On va passer deux heures ensemble avec autour de cette table, eh bien, toute l'équipe de l'atelier Aurore Géraud, Constance Guyon, Cécile Puardi. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Tout à l'heure, Antoine Cyr sera là pour le crash test et pour les gadgetos. Lila Megraoua nous rejoindra, bien évidemment. Jean Chambure sera avec nous aussi dans quelques instants pour son vue d'Asie depuis Shanghai. Nathalie Doré est là aussi dans un instant depuis San Francisco. Au menu de cet atelier, tout à l'heure, le Silicon Carnet, Cyber Gadget avec une sélection de gadgets pour Antoine, un masque du sommeil pour contrôler ses rêves. Rien que ça, ça fait rêver. Une histoire à dormir debout. Notre start-up de la semaine, notre enquête de l'atelier, on va parler de robots collaboratifs ou comment les robots peuvent interagir avec des humains dans des usines. Notre web stratégie tout à l'heure, notre passion selon Sanet, est-ce qu'on peut s'attacher à un robot ? Ah ah, on verra ça avec un spécialiste. Et puis, notre dossier de l'atelier US, on évoquera le transport à la demande. Notre French Tech, vous connaissez les food trucks ? Eh bien, il existe aussi les fun trucks. La rédaction de 01net.com sera là aussi. On jettera un œil sur les gros titres d'actualité de cette semaine avec, entre autres, la keynote de Google, la Google I.O. On en parlera avec Éric Le Bourlou. Et puis, le crash test d'Antoine Cyr. Voilà, vous savez tout. Bienvenue. C'est parti pour deux heures de plongée dans le numérique. Et c'est l'atelier qui débute avec un petit détour depuis San Francisco. Nathalie Doré qui ouvre le bal. Nathalie.
Oui, bonjour François.
Bonjour. Mais
écoutez, moi cette semaine, je vais vous parler des métiers, hein, puisque on vit dans un monde qui change et les entreprises ne cessent de se transformer. Alors, on connaissait les Chief Digital Officer, hein, les CDO, on connaissait les Chief Data Officer, toujours des CDO, mais de plus en plus ici, on entend parler des CAO, les CAO, si je le dis en français, qui sont les Chief Algorithm Officer, donc les responsables des algorithmes.
Ah oui.
Alors, on était à ShopTalk New York cette semaine, qui est une nouvelle conférence très prometteuse sur le futur du commerce. Et c'était à la fois alors amusant, mais aussi une évidence finalement d'entendre les pure players, des commerçants en ligne comme Stitch Fix, dire qu'ils avaient déjà dans leurs équipes un Chief Algorithm Officer. Alors, ce n'est pas un poste complètement nouveau, hein. On entend parler de ces types de profils depuis deux ans, et puis si vous cherchez sur LinkedIn, vous en trouvez plusieurs, mais leur importance ne fait que grandir au sein des entreprises. Alors, vous allez me dire, c'est normal, hein, puisqu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de machines apprenantes, de robots, donc forcément, pour tout cela, il va falloir des Chief Algorithm Officers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il restera des humains pour travailler sur les process, travailler sur les algorithmes. Ça sera juste une nouvelle façon de travailler, des nouveaux types de métiers. Donc, si vous travaillez dans une entreprise et que vous n'avez pas encore un Chief Algorithm Officer, réfléchissez dès maintenant à qui pourrait endosser ce rôle, car vous allez en avoir besoin. Et en conclusion, je dirais que celui-ci doit être très utile, car si on reprend le cas de Stitch Fix, qui est un site en fait qui vous propose du stylisme personnalisé et qui apprend en vous livrant des commandes et en voyant votre comportement si vous retournez la commande ou pas, eh bien on voit qu'ils sont très très bons dans leur choix, donc ils maîtrisent très très bien les algorithmes et cela améliore le service et ils deviennent très pertinents sur le marché du e-commerce.
Le Chief Algorithm Officer. Eh bien écoutez, grâce à vous maintenant on sait ce que c'est. Merci beaucoup Nathalie depuis San Francisco. On enchaîne avec Cécile Puardi.
Aujourd'hui, je vous parle de robots d'un nouveau genre, le robot origami, qui pourrait aider le domaine de la santé. Il s'agit d'un minuscule robot, sous la forme d'un cube en fait, accroché à une fine feuille de papier qui sera pliée de façon, vous allez le voir, très intelligente. Ce minuscule robot est entouré d'une capsule pour que vous puissiez l'avaler, car le but, c'est de soigner les problèmes d'estomac en fait. Donc ce sont les chercheurs...
C'est un petit cube alors, c'est pas un gros cube.
Un tout petit cube, minuscule.
Parce que si c'est un gros cube, ça doit pas être facile.
Non, voilà. Accroché à une fine feuille, dans une capsule, comme un doliprane par exemple, comme un paracétamol, vous l'avalez. Et ça soigne votre estomac. En fait, ce sont les chercheurs du MIT, de l'Université de Sheffield et de l'Institut Technologique de Tokyo qui l'ont créé. Le robot origami peut pour le moment réaliser deux types de soins. Il peut apposer un pansement sur une plaie dans l'estomac ou récupérer une pile électrique que, par exemple, votre enfant aurait avalée. C'est un problème de taille car 3500 piles sont ingérées chaque année rien qu'aux États-Unis et peuvent brûler les tissus internes.
Donc, c'est horrible, cette histoire.
Oui, ça peut vraiment être très dangereux.
En plus, on peut même pas recharger la pile. Enfin bref, c'est terrible.
Ah oui, dramatique comme conséquence.
On plaisante, bien évidemment.
Donc comment ça marche ? On avale la capsule qui va se dissoudre dans l'estomac comme tout médicament.
Oui.
Là, le robot origami se déploie.
Se dit, oh là là, c'est à moi de jouer.
Exactement.
Voilà.
et il va avancer le long de la paroi de l'estomac. Donc il va avancer d'une part grâce au pliage du papier, qui constitue une sorte de nageoire qui peut avancer en fait grâce au fluide à l'intérieur du ventre,
oui.
Mais aussi grâce au frottement de l'estomac, qui vont faire glisser le robot, et enfin grâce au champ magnétique extérieur qu'on peut appliquer au robot, puisqu'il contient un aimant, c'est d'ailleurs comme ça qu'il récupère la pile. Et pour l'instant, la technologie a été testée sur des estomacs de porc, et on a bon espoir qu'elle puisse permettre d'avancer dans le domaine de l'e-santé plus généralement. Voilà, ingérer des tout petits robots qui pourraient nous soigner de l'intérieur.
Mais je crois que c'est déjà le cas. Il y a Olympus qui a mis au point une petite caméra qui est en fait dans une gélule que vous avalez et qui vous évite par exemple de faire des examens avec des tuyaux qu'on vous fait passer par la trachée, etc. Et ça marcherait plutôt pas mal.
Alors, voilà.
C'est que le début.
Exactement.
Merci beaucoup.
Vous vous souvenez de ce dessin animé Il était une fois la vie, ça
oui,
fait penser à ça.
C'était ça, effectivement.
La vie.
Il y a même un film qui alors puisqu'Antoine nous a rejoint dans ce studio. Antoine, quel est ce film où il y a un petit vaisseau qui se retrouve dans l'organisme et qui se perd en fait, je sais plus dans quel organe là.
C'est
l'aventure intérieure.
Non. Alors il y a l'aventure intérieure, oui. Mais avant il y en avait un plus ancien.
Voilà, c'est ça.
L'aventure intérieure est un remake d'un autre qui devait s'appeler Le Voyage Fantastique.
Le Voyage Fantastique.
Et personnellement j'ai une tendresse forte pour Le Voyage Fantastique parce qu'il y a dedans la somptueuse Raquel Welch.
Ah oui, c'est vrai. Et même si elle est toute petite, elle était déjà très sympa.
Mais comme la caméra est à l'échelle,
et ça va, ça allait, parfait.
C'était votre époque.
Eh ben oui, désolé.
Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez pas Raquel Welch, Constance? Bah ça, c'est Cécile, pardon, c'est quand même embêtant. Aurore.
Oui, moi je vais vous parler, aucun rapport, d'une veste empathique. C'est une veste qui va deviner quels sont vos sentiments.
Eh bien, dites-moi.
Ça annonce de belles choses.
Si je mets cette veste, Antoine verra que je déteste, en fait, c'est ça?
Exactement.
Mais c'est horrible.
Oh là là. Enfin, voilà.
Enfin, voilà.
Enfin, votre véritable sentiment.
Je suis dévoilé.
J'ai pas dit que c'était une veste qui dévoile les émotions. J'ai juste dit qu'elle est empathique.
D'accord.
Qu'elle comprend les émotions des personnes.
D'accord.
Donc, pas possibilité de dire.
Au contraire, ça pourrait aider François à me comprendre, ce qui n'est absolument
et à vous
pas,
aimer.
Ce qui n'est absolument pas son objectif dans la vie, et donc il n'achètera jamais votre vêtement.
Alors expliquez-nous à quoi ça sert.
Alors Microsoft a déposé un brevet pour ce nouveau wearable, donc qui s'adapte aux sentiments de son porteur. En fait, il va être plein de capteurs, capteurs de température, capteurs de pouls, capteurs de mouvement.
Capteurs de pouls, vous avez dit?
Ouais, de pouls, de battement de cœur.
Ah bon?
Ah oui, non, mais de temps en temps, dans les écoles, ça peut servir.
J'ai cru que si vous aviez des pouls, ils vous disaient qu'il y avait un pouls.
Remarque, ça serait vachement utile, hein,
bah
je
oui.
pense. Et du coup, donc tous ces capteurs vont pouvoir permettre d'identifier l'état d'esprit de la personne, sachant que par exemple, quand on est en état de stress, on transpire beaucoup, ou la température monte, ce genre de choses. Et via ces capteurs, on va pouvoir aérer la veste, on va pouvoir réchauffer la veste quand l'individu tremble, on va pouvoir, via des petites pompes à l'intérieur de la veste, faire une sorte de pression sur la personne pour lui faire croire qu'on lui fait un câlin, pour la rassurer. Et on pourra même entendre un petit peu de musique quand la personne est identifiée comme triste. Alors bon, on pense que c'est un peu gadget, effectivement, la musique surtout, ça dénote ce côté-là. Mais le but est en fait dans la santé connectée, puisque ce serait pour des enfants autistes, par exemple, ou des personnes âgées,
d'accord,
pour réguler leur température, pour leur donner le sentiment d'être compris et de sortir dans le monde.
C'est beau.
C'est beau,
c'est magnifique. Et avant de retrouver la news de Constance, mon cher Antoine, avec une magnifique cravate aujourd'hui, c'est superbe.
Bon.
Ah ouais, non, franchement, je peux vous le dire, mais superbe. Alors.
Bien. Alors, on parle beaucoup en ce moment de voitures autonomes. Il y a les voitures de Google. Bon, vous savez qu'il y a aussi les Tesla qui deviennent de plus en plus autonomes.
Bien sûr,
hein. Vous avez déjà conduit une Tesla autonome?
Sans fil.
Non. Moi, oui.
Et alors?
Et ben, sur une petite route assez sinueuse. Vous savez, il faut absolument qu'il y ait une bande blanche au bord de la route. Et donc, j'étais avec un ami qui avait une Tesla et qui a trouvé une route assez sinueuse sur laquelle il y avait une bande blanche.
D'accord.
Et donc c'était quand même assez impressionnant parce que la voiture
mais ça marchait bien.
Ah ouais. Ouais.
Impressionnant.
Ouais, mais ouais. Ça fait voilà.
Enfin, vous qui aimez piloter, ça doit vous embêter un petit peu quand même.
Oui, mais en même temps, je reconnais que la sensation de se faire emmener assez vite par la voiture, enfin bien sûr dans le respect des limitations de vitesse, mais 90 sur la route où on était,
c'était déjà assez costaud.
Fallait déjà s'en occuper.
Enfin, alors
c'est
votre
la Tesla
news.
Qui faisait tout. Hein. Donc il y a des voitures autonomes et puis il y a des camion maintenant autonome, figurez-vous. Alors pour moi, le camion autonome, ça fait un peu peur parce que pour moi, l'image du camion autonome, on parlait de cinéma tout à l'heure, c'est l'image du camion de Duel,
le premier
film de Spielberg.
Ah oui.
Ouais, qui est effrayant et dont on ne voit jamais le conducteur.
Cécile nous regarde en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc.
Steven Spielberg, c'est un réalisateur.
Oui, qui a Cannes en plus actuellement.
C'est un réalisateur du protozoaire supérieur non, ça n'existe pas le protozoaire du proto. Mais il fait encore des films, il paraît quand même. Et donc le premier de ses films, c'était Duel.
D'accord.
Et donc il y avait un camion. Et donc il paraît, selon une équipe qui est issue de Google, mais qui a créé une start-up qui s'appelle Auto, mais Auto pas comme automobile, mais O2TO. Et donc les ex-Google qui ont créé Auto pensent que si on développait les camions autonomes, on arriverait à réduire d'environ 15% les accidents routiers mortels, notamment ceux qui sont dus évidemment à la fatigue du conducteur, parce que la caractéristique des camions, c'est que souvent les gens les conduisent très longtemps,
et bien sûr.
Puisqu'ils parcourent de longues distances, et ça a des conséquences un peu, évidemment, sur la sécurité. Auto a prévu d'équiper les camions de capteurs et de logiciels, ainsi que de lasers et de caméras, pour qu'à terme, les camions puissent parcourir 350 000 km de manière autonome. Bon, pour l'instant, on n'est pas prêt. Hein. Ils disent quand même qu'il leur faudra probablement des décennies pour que ce soit au point.
Constance.
Alors, pour rebondir sur le sujet des voitures, vous connaissez Netflix, François ?
Mais bien sûr.
Alors, est-ce que vous connaissez le Netflix de la voiture ?
Le Netflix de la voiture ? Eh bien non.
Alors, il y a une jeune start-up finnoise qui s'appelle Mass, qui est en train de révolutionner l'automobile. Alors voilà, elle propose d'arrêter de voir les voitures comme des objets, mais plutôt de voir la mobilité comme un service global. Donc, de la même manière qu'on va sur Netflix regarder tous les films et les séries en payant un abonnement mensuel, là c'est pareil, on va dire j'ai envie de prendre du taxi, du vélo, du bus, de la voiture.
Donc j'ai un abonnement forfaitaire.
Et voilà, on va se concocter un petit abonnement mensuel. D'accord. Par exemple, un businessman pourra choisir un forfait 100% taxi parce qu'il sera tout le temps à l'étranger en sortant de l'aéroport. Ou un père de famille pourra choisir des véhicules de location avec des sièges bébés, par exemple, qui seront là tous les week-ends pour lui. Et ensuite, voilà, on se fixe un prix mensuel qui permet du coup de ne pas avoir son propre véhicule et de pas dépenser, par exemple, de l'argent dans l'assurance automobile, une place de parking, ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir que 96% du temps, les véhicules personnels ne sont pas utilisés. Mmh. Donc ça fait quand même du coup une somme importante d'argent qu'on perd.
Et on optimise quand même tout ça.
On optimise tout ça, et sachant que c'est aussi un marché très important, parce que les utilisateurs dépensent en moyenne 300 euros par mois dans les transports. Donc il y a tout un marché à prendre.
Merci beaucoup Constance, et c'est maintenant notre rendez-vous Vue d'Asie avec Jean de Chambure. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Jean qui, vous le savez, est à Shanghai, qui est là chaque samedi pour nous faire vivre eh bien l'Asie, le vu d'Asie, tout ça vu par évidemment l'atelier Asie. Jean, on va s'intéresser cette semaine à l'ubérisation en Chine. C'est pas quelque chose qui est nouveau là-bas.
Oui, exactement François. En fait, c'est un peu le jeu de mots de cette chronique, c'est que l'ubérisation en Chine n'a effectivement pas attendu Uber pour arriver. Il y a un certain nombre de modèles B2C qui ont ralenti, qui ont décliné au profit du C2C, au profit donc de ce genre de modèles qui permettent à des personnes d'interagir, de faire du commerce directement avec d'autres personnes. Les deux grandes actualités récentes qui montrent que ça fonctionne bien, c'est d'abord dans les transports. Vous savez qu'en Chine, on utilise parfois Uber, mais on utilise surtout beaucoup Didi Chuxing, qui est en fait le grand concurrent d'Uber en Chine, qui compte 300 millions d'inscrits. Il a chaque jour à peu près 11 millions de trajets qui sont opérés dans plus de 400 villes chinoises. Vous vous rendez compte de la taille de tout ça. Alors c'est intéressant comme modèle parce que ce n'est pas exclusivement de la réservation de véhicules privés, ça peut être aussi la réservation de taxis. En gros, si Didi s'implante dans une ville en Chine, le deal c'est qu'à chaque fois, la ville demande demande à ce que les chauffeurs de taxi soient bien intégrés dans l'application, ce qui est d'ailleurs, je pense, tout à fait malin. Et donc voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien. La grande nouvelle qui a concerné la Chine, c'est que Apple a investi $1 milliard quand même. Ça a été annoncé la semaine dernière dans Didi. Alors Didi, il y a derrière à la fois Tencent et Alibaba, les deux grands géants. Côté Uber en Chine, il y a Baidu qui est le moteur de recherche équivalent un peu de Google
évidemment.
En Chine. Donc c'est une bataille très corsée qui est en train de se passer. D'autant que voilà, les dernières cartes, c'est que peut-être qu'il y aurait une introduction en bourse. Alors, évidemment, Didi n'a pas confirmé ça. On peut imaginer qu'avec ces montants investis, ils veulent aller encore un peu plus loin, un peu comme ce que Alibaba a fait il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Ça, c'est les transports. Après, l'autre sujet qui est intéressant, c'est la finance aussi, puisque vous savez que les prêts de personne à personne, le peer-to-peer en Chine, c'est quelque chose qui se développe également beaucoup. C'est sans doute lié au fait que les Chinois fonctionnent beaucoup par réseau, par Guangxi. C'est aussi lié au développement formidable de ces plateformes qui existent depuis assez longtemps. En Chine, en gros, depuis 2008, c'est le moment où ça a commencé à décoller. Et là, c'est la filiale de Alibaba qui vient de lever $4.5 milliards. Donc Alibaba a cette filiale qui s'appelle Ain Financial. Alors, c'est pas exclusivement du peer-to-peer. Hein. Ouais. C'est d'abord un moyen de paiement. C'est ce qu'on appelle Alipay sur place. Donc, c'est énorme. Hein. C'est 450 millions de personnes qui l'utilisent. Ils ont une banque en ligne aussi qui est derrière, qui s'appelle MyBank. Ils ont plein de services financiers. Mais ils ont aussi toute cette logique de peer-to-peer. Donc, il y a en gros 150 millions d'utilisateurs qui vont prêter ou qui vont recevoir un prêt. Et tout ça est évidemment très contrôlé par Alibaba parce qu'au cœur de leur système, hein, avec ces plateformes de e-commerce et cette plateforme de finance que je viens de décrire, c'est le big data. Donc on sait finalement très très bien, Alibaba sait très très bien, en gros, qui a un profil risqué ou pas, compte tenu du big data qui est très très élaboré dans cet écosystème. Donc voilà, en gros, Uber en Chine, c'est un peu d'Alibaba, un peu de Didi, et en tout cas l'ubérisation est bien en marche.
Merci beaucoup Jean de Chambure. Jean de Chambure depuis Shanghai, vous savez, pour son Vue d'Asie, comme chaque samedi après-midi, dans l'atelier numérique sur BFM Business. On revient dans un instant, vous restez là. Le Silicon Carnet de Nathalie Doré, ça sera dans une petite minute. On va parler de covoiturage avec elle, puisque les grands maintenant du web vont s'y intéresser. Et puis juste après, ce seront les cybergadgets. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, les gadgetos d'Antoine, sa petite sélection maison, les amis. Mais auparavant, eh bien, je suis ravi d'accueillir Nathalie Doré. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Ou plutôt rebonjour parce que vous étiez avec nous il y a un instant. Nathalie qui, évidemment, est à San Francisco, qui est la patronne de l'atelier US. On va parler de transport. Ce qui est amusant, c'est qu'on en parlera encore tout à l'heure avec Pauline Kantner, puisqu'on évoquera avec elle le transport à la demande. Mais là, avec vous, Nathalie, on va parler de mobilité, plus précisément de covoiturage.
Oui, François, parce qu'il faut le dire, alors ces derniers jours, c'est annonce sur annonce, il se passe énormément de choses sur ce sujet du covoiturage, du carpooling à l'américaine, et des nouveaux entrants arrivent sur ce secteur, et on en attendait pas moins. Il s'agit quand même de Google, enfin disons Alphabet, et de Tesla. Voilà, donc ce sont des géants de la tech, et ils amènent de l'innovation de services dans les transports, avec une promesse en plus qui est écologique, donc forcément ça fait beaucoup de bruit.
Alors on sait que Google a racheté Waze il y a 3 ans, hein, ils ont eu une écrue parce que c'est une vraie réussite. Est-ce que ça a un lien, Nathalie ?
Complètement. Alors en effet, c'est Alphabet qui a révélé cette semaine son nouveau service, et ce service de covoiturage est opéré par Waze. Alors qu'a fait Waze ? Ils ont pris toute leur force, ils ont analysé toutes les données collectées par leur célèbre application de navigation. Et le constat a été simple, en fait, beaucoup d'Américains font le même trajet à la même heure tous les jours. Alors, du coup, il y a de l'optimisation possible grâce au covoiturage. Ils ont donc, eux, analysé toutes les données des 700 000 utilisateurs de Waze dans la région de San Francisco, hein, ce qui est un bon taux de pénétration, puisque c'est à peu près 26% des conducteurs. Mmh. Et ils arrivent à matcher les profils et proposer du covoiturage. Pour les conducteurs comme moi, il suffit en fait de se mettre en opt-in sur l'appli Waze en disant qu'on veut bien faire du covoiturage. Et pour les passagers qui cherchent un conducteur, il faudra qu'ils téléchargent une nouvelle appli qui s'appelle Waze Rider, qui pour l'instant est ouverte uniquement sur invitation.
D'accord. C'est pourtant un secteur qui est déjà un peu embouteillé, non ? Il y a du monde hein, sur ce secteur, Nathalie.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, ça va de la simple application mobile qui met en relation les personnes comme Carzac, par exemple. Il y a des plus gros acteurs comme Lyft, qui est le principal concurrent de Uber aux États-Unis, qui a lancé son service de covoiturage récemment. Mais on voit qu'en fait, ça prend. Il y a de l'engouement pour le partage des voitures en ville. Alors, il faut dire que Uber a éduqué le marché, hein, Uber et Lyft aux États-Unis. Ouais. Et beaucoup d'acteurs s'intéressent désormais au partage de voitures pour aller travailler. Donc là, ce qui implique souvent des distances plus longues et des conducteurs qui sont du coup des professionnels qui font ça pour avoir un peu d'argent en plus. Alors, c'est le cas de Lyft, comme je le disais, qui a lancé il y a quelques semaines un nouveau service de covoiturage ciblant vraiment les travailleurs comme vous et moi qui assureraient un service de covoiturage juste le temps d'aller à leur travail. Et Waze, eux, ciblent exactement la même population. On parle alors d'un covoiturage industrialisé, hein, c'est quelque chose qui devient récurrent, qui devient un nouvel automatisme pour le travailleur. Mais leur approche de distribution est-elle assez différente, puisqu'en fait, Lyft cible les particuliers, là où Waze cible les entreprises. Et ils ont bien sûr commencé par les employés d'Alphabet.
Mmh. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Tesla, Nathalie. Justement, Tesla, qu'a-t-il à voir dans tout ça?
Alors, l'idée vient d'un jeune conducteur, hein, il avait à peine 16 ans, qui rêvait d'avoir une Tesla et qui s'est rendu compte qu'il pourrait monétiser des transports de ville en ville en utilisant sa Tesla en mode pilotage automatique pour rembourser son lease, hein, son crédit auto et son assurance. Il a présenté l'idée à Elon Musk pendant une assemblée des actionnaires et devinez, eh ben, quelques jours après, il avait des cofondateurs, de l'argent des VC et il a lancé ce nouveau service qui s'appelle Tesloop.
Tesla, Hyperloop, il ne manquait que Tesloop. Comment ça marche, Nathalie, Tesloop?
Alors, c'est assez simple. Hein. Vous allez sur le site de Tesloop, vous donnez vos points de départ et vos points d'arrivée. Par exemple, je veux partir de Los Angeles, aller à Las Vegas. Et le site vous propose des conducteurs de Tesla. Alors, il faut compter environ $85 pour faire un Los Angeles-Las Vegas, qui est compétitif en termes de prix. Hein. C'est deux fois moins cher que l'avion, mais un peu plus loin. C'est quand même 3 heures de plus. Alors, le service est proposé aujourd'hui dans une petite vingtaine de villes des États-Unis. Hein. Donc, ça se développe. Donc, ça montre bien voilà, que les géants de la tech sont en train de confirmer leur intérêt pour le mode de transport du futur et ce n'est que le début, François.
Enfin, cela dit, Los Angeles, Las Vegas en Tesla, il va falloir quand même faire quelques recharges au milieu hein, du trajet, j'ai l'impression.
C'est vrai.
Et oui, donc il va falloir attendre aussi que la voiture se recharge. Mais bon, avec les superchargeurs, ça va vite. Merci beaucoup Nathalie. Nathalie donc depuis San Francisco pour son Silicon Carnet. Antoine, on va parler d'un masque maintenant, un masque de sommeil.
Alors oui, de sommeil. Alors, quand quelqu'un va se coucher?
Oui.
Souvent, vous lui dites quoi? Vous lui dites, fais de beaux
rêves.
De beaux rêves.
Oui.
Et donc là.
On ne le dit pas tout le temps, d'ailleurs.
Non, on ne le dit pas tout le temps.
Elle s'accompagne tous les soirs, non, quand elle se couche. On ne va pas lui dire, faites de beaux rêves.
Écoutez, je ne vais pas.
Bon. Non. Bon. Non, mais on parle de ça.
Voilà. Bon, et donc, le fait de beaux rêves,
oui,
c'est quand même. Malgré tout, ça se dit quand même.
Oui, c'est vrai. Ça se dit. Beaux rêves, bien sûr.
Pas forcément avec la personne qui dort avec vous, mais quand, je ne sais pas, il y a un dîner, vous avez été à une réunion, vous dites, les gens vont se coucher.
Allez, bonne soirée, faites de beaux rêves.
De beaux rêves, voilà.
D'accord.
Et donc, dans ce cas-là, on se dit, moi je me dis, quand on me dit ça, je me dis, ouais, mais est-ce que je vais faire de beaux rêves? Peut-être que je vais pas faire de beaux rêves cette nuit, peut-être que je vais faire des rêves.
Des mauvais rêves.
Des mauvais rêves, que je vais rêver d'un percepteur qui aura la tête de François Sorel, enfin, des trucs.
Le cauchemar.
Voilà. Bon. Et la possibilité de choisir vos rêves va enfin vous être offerte.
Ça, c'est la classe.
C'est ce que propose Bitbanger Labs, grâce donc à un masque du sommeil qui est atypique, puisqu'il est doté de 6 lumières LED qui créent des dessins lumineux lorsque la personne qui porte le masque commence à rêver. Et donc, ça va orienter vos rêves.
Tiens.
Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le masque est programmé pour attendre un délai de 4h30. Donc pendant 4h30,
il ne fait rien.
Rien.
D'accord.
Rien. Il est totalement.
Il dort lui aussi. Et puis d'un coup.
Et d'un coup, il va commencer à émettre les premiers signaux lumineux parce que il a perçu que vous étiez rentré dans votre sommeil REM, Rapid Eye Movement, qui est le sommeil pendant lequel les rêves ont lieu. Je crois qu'en français, en bon français, il me semble que ça s'appelle le sommeil paradoxal.
Je crois tout à fait. Donc, en fait, il analyse quoi? L'activité cérébrale, c'est ça?
Oui, exactement. Et donc, il y a donc des lumières qui sont programmées et qui vont orienter, encore une fois, vos rêves. Alors, vous pouvez choisir les réglages, vous pouvez choisir aussi l'intensité, selon que vous avez le sommeil plus ou moins lourd, et apparemment on se souviendrait aussi mieux de ses rêves grâce à ce masque. Et donc le produit qui s'appelle Remy a été financé grâce au crowdfunding de Kickstarter, et ce qui est intéressant c'est qu'alors qu'ils avaient besoin de $35,000, ils en ont levé 600 000.
Ah oui?
Ouais, quand même.
Mais oui, mais c'est vrai que les rêves fascinent beaucoup de gens. Hein.
Exactement.
Merci beaucoup Antoine, on revient dans un instant. Startup de la semaine et enquête de l'atelier à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, notre enquête de l'atelier. Dans un instant, on va parler de Kobo ou de robots collaboratifs avec Lila Megrawa et notre invité qui n'est pas un robot, qui est en chair en os et qu'on va accueillir dans un instant. Et puis juste après, ce sera notre web stratégie, bien évidemment. Mais dans l'immédiat, notre start-up de la semaine, on va parler du lavoir moderne qui digitalise le pressing, Aurore Géraud.
Pour cette start-up de la semaine, je suis en compagnie d'Alpha Dio, Olori Togbe et Pierre-Henri Canon, qui sont tous les deux cofondateurs du Lavoir Moderne. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler de Tradigital aujourd'hui, un métier qui est transformé par le numérique, un métier au savoir-faire traditionnel. Et c'est un peu le cas du lavoir moderne. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre concept ?
Alors en fait, le lavoir moderne est un service qui propose un retrait et la livraison à domicile de la totalité des vêtements des particuliers, c'est-à-dire pas uniquement le pressing, mais également le linge du quotidien. C'est un service de retrait de livraison express, donc qui est basé sur toute une organisation logistique qui nous permet d'être chez nos clients en moins de 30 minutes.
Vous voulez répondre à une volonté d'immédiateté qu'on voit beaucoup actuellement chez le client, chez le consommateur. Quels outils, quels choix vous avez effectués pour pouvoir transformer votre métier traditionnel ?
Alors effectivement, on a tourné tout notre modèle sur l'expérience utilisateur, où on a évidemment une application qui répond aux besoins d'immédiateté du client et de disponibilité à tout moment. Et on a après construit toute une infrastructure qui permet donc, avec notamment le scooter électrique, d'être en express, donc en moins de 30 minutes chez nos clients, contrairement à d'autres qui seraient sur un créneau horaire qui obligerait le client à organiser son temps en fonction de la tournée logistique et non pas en fonction de ses besoins.
L'autre élément important de l'expérience client, c'est la possibilité pour nos clients de nous confier la totalité de leur linge. Et pour ça, on a développé là aussi une technologie de séchage naturel qui nous permet de traiter qualitativement le linge au poids.
Je crois que vous avez choisi pour votre part de ne pas miser sur l'ubérisation.
Absolument. Alors, nos scooters électriques sont des véhicules spécifiques qu'on a développés spécifiquement pour transporter du linge sur cintre et donc ne peuvent pas être confiés à un auto-entrepreneur qui aurait son propre véhicule. On a choisi donc d'avoir des lavandiers qui sont notre vitrine. C'est le premier contact avec le client. C'est très important pour nous. Du coup, ils sont en tenue, on les forme. Ils ont tout un process qui permet d'assurer un service qualitatif au client. On a compris qu'on ne pouvait pas ubériser nos lavandiers, mais on ne peut pas ubériser non plus notre centre de production puisqu'on a besoin de maîtriser la qualité, les délais. On s'est très vite rendu compte, on a sous-traité pendant un an et demi, on s'est très vite rendu compte qu'on ne maîtriserait pas, que ce n'était pas suffisant, ça ne remplissait pas la promesse qu'on faisait à nos clients. Donc on a investi massivement dans un centre d'autotraitement qui nous permet à la fois de traiter qualitativement le linge à la pièce, le pressing, basiquement, et aussi tout le linge quotidien, donc le linge des particuliers, avec notamment la technologie de séchage naturel qui permet aux particuliers de mettre l'ensemble de son linge et pas uniquement le linge qui se sèche en machine.
Vous mettez l'humain au centre de votre concept aussi. On le voit parce que vous avez un lieu physique, ce qui est un petit peu un moyen concurrentiel. Est-ce que c'était volontaire de votre part ?
Exactement. On constate par ailleurs que beaucoup d'autres marques qui ont commencé en étant 100% online, aujourd'hui créent des corners, créer des boutiques pour avoir un lieu de rencontre avec le client, c'est ce que les Anglais théorisent sous la forme de need to meet. C'est-à-dire qu'il y a un besoin des gens de rencontrer les acteurs de la marque, de rencontrer les gens qui leur rendent service. Et ça se fait pas seulement au travers de la relation à la porte du client, mais ça se fait aussi dans nos boutiques. Et on a constaté qu'on a beaucoup de clients qui commencent la relation avec le lavoir moderne en venant à la boutique, en commandant une fois ou deux dans notre point de vente. Et puis ensuite, très rapidement, ils passent en ligne et on les revoit plus en boutique. Mais c'est un élément important pour eux de savoir qu'ici ils peuvent venir dans un de nos points de vente pour le SAV, pour des questions spéciales, pour se faire expliquer l'offre par un de nos lavandiers experts.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ?
Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est développer nos services aussi loin que possible.
On crée également un nouveau service à destination des professionnels ou des semi-professionnels, notamment la clientèle Airbnb pour laquelle les draps et les serviettes sont un cauchemar. On est le seul service qui est capable de leur enlever, livrer les draps et les serviettes en express à leur porte. porte. On a d'ailleurs constaté que nos plus gros clients unitaires sont des clients Airbnb.
Aurore, merci. Place à notre enquête de l'atelier maintenant dans cet atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous d'ailleurs comme chaque week-end. Lila, en compagnie de notre invité, on va parler de robots ou de cobots. Est-ce que ça peut devenir un collègue finalement?
On va se poser la question avec un spécialiste, Serge Nadreau, bonjour.
Bonjour.
Alors Serge Nadreau, vous êtes directeur de l'activité robotique d'ABB en France.
Voilà.
Et alors, pour vous tracer un peu le marché, le robot collaboratif, pour vous imaginer, d'ici 2020, ce marché pourrait dépasser les 3 milliards de dollars, alors que jusqu'à présent, il atteignait à peine 100 millions. Alors, on a le plaisir, comme je disais, d'avoir un leader en la matière, un leader mondial à la fois des technologies de l'énergie et de l'automation, ABB. Alors, racontez-nous un peu, Serge Nadreau, pourquoi ABB a développé une activité robotique? Où se situe la robotique chez ABB?
Et puis moi, oui, j'aurais aussi une petite question sur le robot collaboratif, parce qu'on ne sait pas forcément tous ce que c'est.
D'accord. Donc on va commencer déjà par le positionnement de la robotique chez ABB. En fait, ABB, comme vous l'avez bien dit, est leader des solutions d'automation et d'énergie, avec des clients qui sont les utilités, qui sont l'industrie, qui sont le transport, les infrastructures, le bâtiment. Lorsque l'on arrive sur la robotique, on se positionne bien sûr dans l'industrie, et l'industrie classique qui a avec la robotique fabriqué principalement des voitures jusque il y a une dizaine d'années. Ensuite, la robotique s'est étendue à de nombreux secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, le transport également, enfin bref, tous les secteurs de l'industrie. On va même jusqu'à peindre des cercueils, fabriquer des soutiens-gorge avec des robots. Ça, c'était, j'irais jusqu'à quelques années, la robotique classique. Puis est arrivé le positionnement du robot de manière nouvelle, les technologies aidant, les moyens de sécurité aidant. On a pu faire travailler le robot en collaboration avec l'opérateur. D'où cette notion de robotique collaborative.
Exemple,
partager un espace de travail, l'opérateur va faire une opération sur, je sais pas, un assemblage de deux pièces, puis se retirer, puis le robot va finir cette opération. Ça, c'était encore la robotique collaborative il y a 2-3 ans, où on était dans une notion d'espace partagé exclusif. C'était soit le robot qui allait dans cet espace partagé, soit l'opérateur. Mais il y avait encore un moyen de contrôle.
Mais pas les deux pour des raisons de sécurité, j'imagine.
Pas les deux, c'était un ou exclusif.
D'accord.
Pour des raisons de sécurité. Et il y avait des moyens de sécurité, des caméras de sécurité, qui contrôlaient que cet espace était partagé, mais de manière exclusive. Aujourd'hui, on arrive avec la possibilité de faire un ou inclusif, c'est-à-dire de travailler dans le même espace de travail, sans contrôler le positionnement du robot par rapport à l'opérateur, mais simplement en rendant le...
Quand vous dites l'opérateur, c'est l'humain, hein, bien sûr.
L'opérateur, hein, c'est l'humain. En rendant l'interaction, le choc possible et non dangereux pour l'opérateur, pour l'humain. Ça veut dire que nos technologies robotiques, en particulier le robot Yumi d'ABB, a la capacité de l'énergie qu'il va dépenser en cas de choc avec un opérateur sera insuffisante pour créer des dommages irréversibles. Un dommage irréversible, c'est un bleu. Ça veut dire que même si vous venez à rentrer en interaction avec Yumi, vous n'aurez pas de bleu, vous n'aurez rien, le robot s'arrêtera. Et il reprendra son opération dès que...
Oui, il y aura simplement, on va dire, un léger choc.
Il y aura un léger choc comme avec une porte d'ascenseur.
D'accord, ok.
Pas plus.
Et vous êtes sûr de ça?
C'est-à-dire que on est sûr de ça?
Je vous pose cette question parce qu'il y a toujours cette interrogation.
La technologie aujourd'hui le permet.
D'accord.
La technologie parce que...
Mais quels sont les garde-fous là? C'est que les moteurs qui sont à l'intérieur sont pas assez puissants pour justement blesser quelqu'un. C'est les capteurs qui sont plus performants.
C'est un ensemble de choses. C'est d'abord la structure propre du robot qui ne peut pas vous pincer. Le design des bras, la morphologie du robot lui-même est définie pour ne pas pouvoir vous pincer. Ensuite, chaque moteur du robot, il y en a 14 sur un Yumi, est conçu de manière, c'est un groupe moto-réducteur variateur, capteur d'effort, qui va s'arrêter en cas de détection de collision.
D'accord.
C'est la structure même des bras du robot qui est un petit peu en mousse, qui va éviter justement,
qui amortira aussi.
Donc l'ensemble de ces trois éléments-là va permettre de rendre l'éventuel choc, parce que faut bien voir que les opérations qu'on fait avec un robot collaboratif, le but c'est pas de transformer un robot qui cherche, c'est pas un boxeur. Donc c'est un robot qui va faire des tâches avec le collaborateur, avec l'opérateur, et qui de manière aléatoire peut rentrer en contact avec celui-ci. D'accord. Sans avoir le
juste une petite question, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que pourrait fabriquer ce robot Yumi avec l'humain qui sera à proximité?
Ben on a des exemples qui sont déjà en place au niveau industriel, même en place dans nos propres usines ABB. Ce sont des assemblages de contacteurs, par exemple, où vous imaginez qu'un opérateur va venir commencer à faire de l'assemblage, positionner des pièces. Yumi va venir prendre un certain nombre d'autres pièces, compléter cette opération. Yumi est doté d'une caméra dans la main et il va pouvoir contrôler, faire du contrôle qualité. Oui. Du bon montage. Yumi a une capacité à tester en effort certaines choses. Donc, imaginez une RJ45, par exemple. Alors, si vous la cliquez.
La RJ45, pour tous ceux qui sont pas des spécialistes, on branche ça, en fait, sur son ordi pour avoir Internet.
Voilà.
C'est le câble Ethernet.
C'est la fameuse petite prise du câble Internet qui fait clic.
Voilà,
quand elle est bien.
Mais maintenant, avec le Wi-Fi,
elle est bien enfoncée.
On en a presque plus besoin, mais
pour
certains, oui.
Mais Yumi n'est pas doté d'oreilles, mais par contre, il est doté d'un capteur d'effort qui va lui permettre de vérifier que
ça fait clic,
c'est-à-dire que si on tire dessus. Donc ça, pour tout ce qui est connectique dans l'automobile, connectique ailleurs, c'est très intéressant d'être capable de faire du contrôle qualité, de diminuer les taux de rebut.
Et alors l'opérateur dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait lui?
Et l'opérateur, il intervient pour une partie du travail.
D'accord.
Pour l'amener les pièces, pour faire une partie des opérations, et Yumi fera d'autres opérations. Typiquement, on a une autre application où on vient insérer des clips dans des planches de tableau de bord, des différents éléments. Insérer des clips, ça veut dire pousser avec le pouce pour enfoncer ce clip. C'est relativement traumatisant pour l'opérateur.
C'est un robot qui le fait.
Là, c'est le robot qui le fera, et le robot contrôlera, alors que l'opérateur ira mettre sur cette même autre planche de bord d'autres éléments, le compteur, le machin. Ils travaillent en collaboration.
Est-ce que demain, ce robot collaboratif pourrait travailler de concert avec d'autres robots, avec tout simplement sur certaines tâches?
On est sur les mêmes technologies que la robotique classique. On le programme. De la même manière, son langage de programmation est le même, à ceci près que Yumi, on a développé aussi une petite interface sur tablette qui permet de faire du teaching plus facile en se positionnant. Mais un robot Yumi est d'abord un robot industriel, donc il pourrait être amené à travailler avec d'autres robots. Après, c'est peut-être pas sa vocation première.
Sa vocation première est réellement
de faire du petit assemblage. Et souvent en collaboration avec l'opérateur.
Est-ce que on parle énormément de pénibilité du travail? Est-ce que ce robot pourrait avoir vocation à soulager l'opérateur?
L'exemple que je vous ai donné sur
les
traumatismes musculo-squelettiques en est un exemple. En effet, il est réellement là pour compenser certaines tâches peu noble que peut faire un opérateur.
Aujourd'hui, est-ce que cette division robotique, cette activité robotique, vous m'aviez dit pendant la préparation de l'interview que ça vous a permis d'être sollicité par d'autres types de clients.
En effet. La robotique classique, même si on a eu quelques applications sympas, traire des vaches et autres, est quand même limité à certains secteurs industriels. Et aujourd'hui, d'autres secteurs sont venus vers nous pour, de part, la facilité d'intégration du robot, puisque un robot collaboratif s'intègre sans avoir besoin de mettre de barrières, sans avoir besoin de rajouter des automatismes un peu plus compliqués. Donc en effet, des domaines comme la cosmétique ou d'autres domaines viennent à la robotique, ou même des sociétés de plus faible taille, des PME, des ETI vont venir vers nous pour intégrer un premier robot qui peut être un robot collaboratif.
Alors assez souvent on peut penser beaucoup trop rapidement robotique, potentielle diminution voire suppression d'emplois. Est-ce que pour autant ces robots ne pourraient pas répondre à un besoin d'industriel, un déficit par exemple de main d'œuvre sur certaines tâches?
Mais, oui, et ce phénomène, il n'est pas limité à la robotique collaborative. Je dirais que c'est quelque chose de général. La robotique est là aussi pour faire des tâches pour lesquelles l'opérateur n'est pas dédié ou a peu de valeur, ou certaines choses qui doivent être, je dirais, tracées de manière sécuritive. La réalisation d'un process qui doit absolument être réalisé sans erreur, le robot le détectera et le tracera plus facilement.
Alors j'avais une dernière question très très rapide. Oui. J'avais vu le robot Yumi lors de la dernière exposition universelle de Milan pour un exemple de supermarché du futur. Est-ce qu'on pourrait tout simplement retrouver demain ce robot Yumi supermarchés? Il vous permettait de choisir de vous tendre des fruits, voire de presser, enfin d'aider à presser les légumes.
Est-ce que ça pourrait arriver près du grand public ou près des consommateurs?
Oui, tout à fait. Je pense que aujourd'hui on arrive avec un produit sur le marché depuis un peu moins d'un an, où c'est vrai que nous, roboticiens classiques, avons une approche relativement
industrielle.
Mais les applications de ce que l'on peut faire de cette mécanique, de cette capacité qu'a Yumi aujourd'hui, on n'en connaît pas tout à fait les limites. Et ces applications-là ne viendront peut-être pas de nous, vieux roboticiens que nous sommes, mais sans doute des partenaires qui travailleront avec nous.
Et peut-être que dans 20 ans, on aura un Yumi dans sa cuisine qui nous fera la cuisine à notre place, Lila. Ça serait chouette.
Voilà, le robot multi.
Hein,
merci beaucoup, Serge Nadeau. Je rappelle, vous êtes directeur de l'activité robotique France d'ABB. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et vous restez avec nous. Suite de l'atelier dans un petit instant sur BFM Business. Ce sera notre web stratégie. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, nous continuerons à parler robots dans notre passion selon Sonnet, mais dans l'immédiat, notre web stratégie avec la stratégie digitale des PUF, les presses universitaires de France, avec un cas, celui de l'Expresso Book Machine. Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors cette semaine, on va s'intéresser à un pan de la stratégie digitale des PUF, soit les presses universitaires de France. Lors de la lecture numérique, le papier n'a pas encore tout à fait écrit son dernier mot. On va en parler avec Alexandre Godefroy. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alexandre Godefroy, vous êtes chargé de mission au PUF, Presse universitaire de France, et vous avez mis en place un système assez curieux qui a été baptisé l'Expresso Book Machine. Le concept, c'est quoi ?
Alors, le concept, c'est quoi ? C'est l'Expresso Book Machine, c'est un outil qui nous permet d'imprimer des livres directement à la demande. Grâce à cet outil, les PUF ont pu revenir, puis ont pu réouvrir une librairie dans le quartier latin. Pourquoi grâce à cet outil ? Puisque cet outil d'impression à la demande nous permet d'avoir une multitude de titres proposés à nos lecteurs sans avoir un espace qui nécessite de stocker ces ouvrages. Aujourd'hui, finalement, vous retrouvez dans une librairie, dans la librairie des PUF. Pour sélectionner votre ouvrage, on vous confie une tablette. Sur cette tablette, on peut mettre une infinité de titres. Et à partir de ces tablettes, l'Expresso Book Machine nous permet d'imprimer des livres, tout simplement.
Concrètement, comment ça marche ? C'est quoi ? C'est une énorme photocopieuse, c'est une énorme machine. Est-ce que ça respecte les codes, le format standard d'un livre ?
Alors, on respecte tout du livre, son format, sa pagination, son contenu, sa couverture. Donc vraiment, le livre qui sortira de l'Express Book Machine sera identique à un livre que vous pourrez trouver dans n'importe quelle librairie, que ce soit dans des librairies du quartier ou des librairies de province. Donc la seule différence va résider dans la couverture. C'est un outil qui est très compact, sur lequel nous ne faisons pas de ce qu'on appelle un pelliculage. Donc plutôt que d'être pelliculé, les couvertures sont vernies. Donc vous avez juste un toucher finalement du livre qui est différent. Mais autrement, vous êtes sur une copie conforme de l'ouvrage tel que vous pouvez le trouver d'une manière classique.
Espresso Book Machine Express, j'imagine que c'est pas anodin, que c'est pas une solution pour contrer la livraison express d'un Amazon par exemple.
Alors, comme je disais, cet outil a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'avoir dans un minimum d'espace, comme je disais auparavant, une multitude de titres. Et, comme vous venez de le préciser, c'est aussi de proposer à nos lecteurs l'instantanéité de la disponibilité de nos ouvrages. Autrement dit, un étudiant ou une personne qui cherche un livre chez un libraire classique qu'il ne trouve pas, va devoir le commander, va devoir attendre 2-3 jours avant de le recevoir. Si les 2-3 jours ne lui conviennent pas, il va se rediriger peut-être vers Amazon, qui propose une livraison en 24 heures. Et si les 24 heures ne lui conviennent toujours pas, nous, en tant que libraire, on lui propose d'imprimer son livre en 5 à 10 minutes. Et donc finalement, c'est l'instantanéité de l'ouvrage dont on pourra bénéficier l'ensemble de nos lecteurs.
Également, j'imagine que pour l'éditeur, c'est tout simplement la fin de la rupture de stock.
Alors c'est exactement ça, c'est la fin de rupture de stock. Dans cette librairie, évidemment, tous les éditeurs ont à gérer des mini-ruptures de stock et font en sorte de les éviter. Mais là, clairement, il n'y a aucun des titres aujourd'hui ici que je peux vous dire, pour lequel je puisse vous dire que je suis en rupture de stock. Bah, cette rupture de stock, finalement, se crée sur les contraintes techniques de ma machine, puisque cet outil-là permet d'imprimer de 46 à 850 pages. Nous avons quelques ouvrages au PUF qui font plus de 850 pages, que nous ne pouvons malheureusement pas imprimer sur cet outil. Quelques ouvrages ne sont pas disponibles, mais c'est vraiment infime.
Est-ce que cette impression à la demande ne revient pas plus cher au PUF ? Quel est l'intérêt économique derrière pour PUF ?
Il faut bien distinguer deux types d'impression à la demande. Il y a l'impression à la demande que nous faisons nous aujourd'hui au sein de cette librairie, qui est faite à partir de l'Expresso Book Machine. Donc c'est un outil qui est très sympa, mais qui est quand même artisanal, puisqu'on n'est pas dans un outil industriel. Donc évidemment, imprimer un ouvrage sur l'Expresso Book Machine, c'est plus coûteux que de l'imprimer d'une manière classique. Mais il existe des solutions d'impression à demande chez des imprimeurs cette fois-ci, qui eux proposent des coûts d'impression tout à fait abordables à partir d'un exemplaire. Aujourd'hui, même si pour l'éditeur il y a un surcoût d'impression à payer, les gains à faire derrière, c'est-à-dire l'économie de pilon, l'économie de gestion de stock, l'instantanéité de la disponibilité du titre, rattrape finalement ce surcoût de production.
Puis quelque part c'est inverser le rapport, à savoir que je vends d'abord et ensuite j'imprime.
Bah exactement, et toutes les industries rêveraient de faire ça finalement. Le livre, c'est une industrie un peu particulière où on a l'habitude d'imprimer beaucoup pour mettre en place sur le marché. Alors c'est très bien pour des nouveautés, pour des titres qu'on a besoin de mettre en avant, mais ça marche pas pour des titres anciens que des libraires ont peur de prendre dans leur stock. Et encore bien même, quand ils les prennent dans leur stock, ils sont pas sûrs de les vendre. Aujourd'hui, impression à demande, comme je le disais, c'est quoi ? C'est un lecteur qui vient dans notre librairie des PUF ou dans n'importe quelle librairie de France qui souhaite un ouvrage des PUF qui était épuisé auparavant, qui n'est plus maintenant, bref, un ouvrage des PUF que le libraire n'a pas dans son stock, et à ce moment-là l'éditeur commande à l'imprimeur un livre en impression à demande qui est livré 48 heures plus tard chez le libraire.
Et quel est votre regard de spécialiste ? Est-ce que vous pensez que demain on pourrait trouver ce type de concept d'impression à la demande dans toutes les librairies, ou plutôt dans un premier temps, une première étape dans les librairies d'éditeurs ?
Il est encore un peu tôt. La première étape, comme vous venez justement de le souligner, serait que cet outil-là soit présent dans des librairies d'éditeurs. Pourquoi ? Parce que pour imprimer un ouvrage, il faut qu'on ait des fichiers, ce qu'on appelle des fichiers PDF imprimeurs. Sans ces fichiers, je n'imprime pas de livre. Aujourd'hui, les éditeurs sont un peu frileux à l'idée de confier leurs fichiers à tout le monde et n'importe qui, entre guillemets. La première étape serait tout d'abord donc que les éditeurs s'équipent de cet outil-là, et qu'ensuite d'autres libraires s'intéressent. Il est encore un peu trop tôt pour que les éditeurs d'un consortium commun se disent « Né, on va confier tous nos fichiers à n'importe quel libraire », avec la crainte finalement de ne pas contrôler les ventes et de ne pas contrôler les flux derrière.
Alors, et si on est un peu plus fou, non pas demain, mais après-demain, pourquoi pas chez moi ?
Alors chez vous, si vous avez beaucoup d'argent, sans problème, parce que il faut le rappeler quand même, c'est un outil qui nécessite un investissement, qui n'est pas moindre, hein. On parle d'une centaine de milliers d'euros. Et derrière ça, il faut que vous en ayez l'utilité. Si c'est simplement pour imprimer votre livre d'enfant que vous avez écrit depuis que vous avez 14 ans à 4 exemplaires, je vous dirais d'aller chez un imprimeur classique. Mais évidemment, tout le monde peut se doter d'une machine comme celle-ci. Elle est très simple d'utilisation. Elle ne demande pas d'avoir des formations spécifiques ou autres. Donc oui, tout le monde peut s'équiper d'une machine comme celle-ci.
Aujourd'hui, on peut trouver cette Expresso Book Machine à la librairie des Puffs dans le quartier latin. On est juste en face de la Sorbonne. Est-ce qu'il est prévu de mettre en place d'autres Expresso Book Machines en France ?
On est les premiers à avoir une Expresso Book Machine en France actuellement. Évidemment, j'ai rencontré beaucoup de libraires, beaucoup d'acteurs du livre qui s'intéressent à l'Expresso Book Machine. Peut-être certains franchiront le pas d'ici la rentrée. Je ne saurais pas trop vous dire aujourd'hui, hein, parce qu'il y a toujours, voilà, on ne sait pas trop, c'est un investissement qui est quand même assez important, dont on n'est pas sûr de des retours. Donc j'espère que d'autres libraires vont s'en équiper, j'espère qu'ils trouveront un moyen et qu'ils lui trouveront un business model au sein de leur librairie.
Alexandre Godefroy, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes chargé de mission des PUF, Presse Universitaire de France. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant. Ce sera notre passion selon Sanette. À tout de suite sur BFM Business.